Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Europe d'hier et d'aujourd'hui. Le podcast qui vous fait voyager en Europe et dans le temps. Pour continuer ce cycle résistance et révolution au XXe siècle, j'ai choisi la Pologne et Solidarność. C'est un souvenir de mes cours d'histoire au lycée. Nous étudions alors la guerre froide. Cet épisode de l'histoire tenait en une ligne ou deux dans mes notes, sans explication. Un nom que je recroise plus tard à plusieurs occasions, sans en savoir plus que c'est un syndicat qui a permis la chute du communisme. Ce choix tient aussi à mes expériences personnelles. En vivant en Lituanie, j'ai découvert que la Pologne a été l'un des royaumes les plus influents du continent, notamment après son alliance avec le Grand-Duché de Lituanie, pour devenir la République polono-lituanienne, autrement désignée par l'appellation République des Deux Nations. Un royaume qui sombre face à la cruauté de Catherine II, dite la Grande, impératrice de Russie. Une occupation qui dure jusqu'à la paix de Riga en 1920. L'entre-deux-guerres donne une courte respiration à la Pologne indépendante, qui retombe très vite sous l'autoritarisme de Piłsudski, avant que l'Allemagne nazie et l'URSS ne décident de son sort lors de l'accord Molotov-Ribbentrop, le 23 août 1939. Si je tenais à faire cet épisode, c'est parce que l'histoire de Solidarność en dit beaucoup sur la Pologne, sur son rapport aux occupations successives et les dynamiques qui traversent encore aujourd'hui la Pologne. S'attaquer à Solidarność, c'est aussi s'attaquer à un mythe, celui d'un syndicat qui a commencé à faire vaciller l'URSS et à entamer une transition démocratique en douceur. L'après-guerre voit apparaître deux Pologne. Celle territoriale et celle du gouvernement en exil à Londres, constituée de 220 000 hommes, sous le patronage du général Anders, héros de l'Armia Krajowa, l'armée de résistance polonaise. Les exilés ont officiellement perdu leur nationalité en septembre 1946. La Pologne de l'après-guerre ne ressemble pas beaucoup à celle de la Deuxième République, dans l'entre-deux-guerres. D'abord, la Pologne glisse beaucoup vers l'ouest, obligeant le gouvernement socialiste d'Osobka Morawski à créer trois voïvodats, équivalents de nos régions, la Mazurie, la Poméranie et la Silésie. Cette Pologne de l'après-guerre voit deux Polognes s'affronter en interne. L'Armia Krajowa, l'armée de résistance polonaise, fidèle au gouvernement en exil, et celle qui est issue de la conférence de Potsdam, confirmée par le traité de Moscou du 26 août 1945, qui entérine les nouvelles frontières, mais surtout reconnaît la Pologne comme faisant partie de la sphère d'influence soviétique. Le paysage politique est rapidement orienté vers l'Union soviétique, bien que le Parti socialiste polonais, le PPS, soit au pouvoir et qu'il est dans ses rangs les plus farouches anti-soviétiques. Il est forcé de s'allier au Parti des travailleurs polonais, le PPR, dirigé par Władysław Gomułka. Les partis dits bourgeois sont le Parti démocratique, le Parti du travail et le Parti des paysans. Le Parti démocratique et le Parti du travail rejoignent la coalition PPS-PPR pour former, je cite, le bloc démocratique. Un premier référendum est mis en place pour demander l'aval du peuple sur la frontière Oder-Neisse avec l'Allemagne, la réforme agraire avec nationalisation de l'industrie lourde et l'abolition du Sénat. Ces trois propositions sont validées par le peuple. Le Sejm, l'Assemblée nationale polonaise, devient une assemblée constituante. Beaucoup de candidats disparaissent. Certains se voient refuser le droit de vote pour collaboration ou fascisme, sans que la preuve n'en soit apportée pour tous. En janvier 1947, le bloc démocratique sort vainqueur des élections et c'est Bolesław Bierut qui devient le chef d'État. Aksel Ankiewicz, comme Premier ministre. Moscou demande à la Pologne de ne pas assister à la conférence du général Marshall. La Pologne est donc formellement pleinement dans le giron soviétique. Elle applique de ce fait aussi les méthodes staliniennes. Les opposants sont envoyés au goulag, et la police politique est en lien direct avec le NKVD, l'ancêtre du KGB. La Pologne applique donc la politique de plan pluriannuel et établit un commissariat au plan pour le mettre en œuvre. Cependant, il n'y a pas de collectivisation totale des terres, comme il y a lieu en Biélorussie ou en Ukraine. Des terres sont nationalisées, mais elles ont un rendement dérisoire. L'énorme majorité des agriculteurs sont des propriétaires terriens. La religion tient une place particulière. L'athéisme est un principe du communisme, mais la Pologne parvient à garder une présence religieuse, qui a son importance tout au long de l'occupation soviétique. L'Église ne s'oppose pas frontalement au régime, pour pouvoir garder un enseignement catholique et sa présence dans le pays. Au sein du bloc démocratique, c'est une guerre interne qui se joue entre Bierut et Gomułka. Bierut est tenant d'une ligne pro-Moscou, alors que Gomułka veut promouvoir un communisme national. Staline ne veut pas ne pas avoir le contrôle. C'est Bierut qui en sort donc gagnant. Le bloc démocratique devient le parti unifié des travailleurs polonais, le PZPR. Gomułka est mise à l'écart avec une accusation d'avoir comploté contre l'État, justifiant une purge par le pouvoir en place. La constitution de 1952 dispose qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs, que le pays est dirigé par le Conseil d'État, dont le président serait le chef de l'État. État polonais et PZPR se confondent alors. Les syndicats, les associations d'anciens combattants et l'Union de la jeunesse polonaise ne jouissent d'aucune autonomie. Le ZMP, l'Union de la jeunesse polonaise, forme les futures élites communistes. Avec cette nouvelle constitution, le Front National, regroupant le PZPR, le ZSL, qui est le parti des paysans, et le SD, écrase le scrutin. L'Église est mise sous pression. Le Vatican désapprouve. Le gouvernement pense qu'en torturant l'évêque de Kielce, en séparant les facultés de théologie de l'université et en la privant de son patrimoine, l'Église ne tiendrait pas. Après la mort de Staline, le 5 mars 1953, l'Église est encore plus réprimée avant d'être réhabilitée en 1956. 1956, c'est l'année de la mort de Bierut, mais aussi l'année où Khrushchev décide de dévoiler les crimes staliniens, auxquels il a par ailleurs activement participé en étant l'architecte de l'Holodomor en Ukraine dans les années 30. Un an plus tôt, il a fait signer le pacte de Varsovie à toutes les républiques soviétiques, équivalent oriental de l'OTAN. Le dirigisme économique demande énormément d'efforts et de sacrifices. Et même si l'accès aux soins et à l'enseignement constitue des contreparties pour faire accepter ces sacrifices, la situation économique est terrible pour les ouvriers, et c'est ainsi que cela vire à l'affrontement pour une première fois. Le 28 juin 1956, autrement appelé le Jeudi Noir, voit le soulèvement de la ville de Poznan. La moitié des manifestants sont des membres du parti. Ils réclament des hausses de salaire. Ils s'attaquent à la mairie, à la police, au palais de justice, au siège de la sécurité de l'État. Les chars interviennent pour ramener l'ordre. Quelques unités russes sont en soutien. Le parti, via le rapport Gierek, dénonce un complot fomenté par un ennemi de l'extérieur. Cet épisode pousse néanmoins le gouvernement à se libéraliser un peu. Les médias retrouvent un peu de liberté. Radio Free Europe, émet depuis Munich, et La Voix de l'Amérique, autre radio qui permet d'avoir de l'information libre, ne sont plus brouillées par les autorités polonaises. Le 21 octobre 1956, Władysław Gomułka est élu premier secrétaire du PZPR, et Khrushchev valide cette élection. La dette polonaise est effacée par le Kremlin. Un prêt de 200 millions de dollars est octroyé à la Pologne et Gomułka obtient la promesse de faire revenir les derniers prisonniers polonais du goulag. Gomułka se donne une image libérale qui semble enthousiasmer les Polonais. Un socialisme plus léger qui se distancie de Moscou tout en lui restant loyal. Mais très vite, les intellectuels deviennent la cible de la répression. La presse aussi. Gomułka refuse de révéler la vérité sur Katyne. Le brouillage des radios occidentales fait son retour. La chasse s'ouvre aussi au sein du parti, notamment envers les staliniens. Les partisans, anciens combattants lors de la guerre civile d'Espagne et de la Seconde Guerre mondiale, sont les grands gagnants de la purge. Avec comme figure de proue le général Mochar, ouvertement antisémite. La Fédération nationale des syndicats, le CRZZ, passe sous la coupe du parti. Gomułka verrouille le parti et toutes ses extensions. L'économie est revenue sur de bons rails dans les années 1960, notamment grâce à de meilleures relations avec l'Occident, ce qui permet de légitimer la répression et l'autoritarisme du parti. Karel Modzelewski et Jacek Kuron, professeurs d'histoire de l'université de Varsovie, sont emprisonnés pour avoir fait circuler un tract critiquant le régime en novembre 1964. En décembre, c'est le général Mochar qui devient ministre de l'Intérieur et légitime encore un peu plus le courant antisémite au sein du PZPR, qui s'était montré très actif lors de la guerre des 7 jours en 1967. Adam Michnik et Henryk Schleifer, étudiants contestataires, sont exclus de l'université de Varsovie en 1968 et sont dépeints comme, je cite, « des juifs bourgeois ». Ils continuent de faire distribuer des tracts citant la Constitution sur les libertés démocratiques et droits civiques. 1968 n'est pas qu'une année de contestation française. Fin 1967, début 1968, la Tchécoslovaquie se révolte et reste dans l'histoire comme le printemps de Prague, réprimé violemment par l'armée rouge. La Pologne a envoyé quelques unités en Tchécoslovaquie le 28 août 1968 pour réprimer la contestation, justifiée par une supposée campagne anti-polonaise des étudiants tchécoslovaques. Gomułka menace même les étudiants polonais du même sort en brandissant l'aide de Moscou. La chasse aux sorcières est lancée contre la communauté juive, forçant 25 à 30 000 d'entre eux à quitter le pays. La presse officielle décrit ces manifestations estudiantines comme, je cite, un complot sioniste et allemand. La grogne ne cesse d'être présente chez les étudiants, mais ils ne parviennent pas à convaincre les ouvriers de se joindre à eux. L'Église, et notamment sa revue Znak, se rapproche des athées en soutenant les dissidents. Le gouvernement fait passer une loi pour que les recteurs d'université ne soient plus élus, mais nommés. À la fin des années 60, il y a un réchauffement des relations avec l'Allemagne qui est en train de mettre en place son Ostpolitik sous l'impulsion de Willy Brandt et entérine la reconnaissance de la frontière Oder-Neisse. Lors du 5e congrès du PZPR, Brejnev est présent pour lui montrer son soutien. Il s'apprête même à recevoir des crédits occidentaux qui permettent au pays de respirer financièrement. Tout semble aller pour le mieux pour Gomułka. Mais 1970 apparaît comme la première secousse importante du régime communiste. Alors que Gomułka se donnait l'image de porte-parole de la classe ouvrière, la situation de ces derniers se détériore de manière dramatique. Il y a une profonde crise du logement due au manque d'appartements disponibles, donc chers et souvent de mauvaise qualité. En plus de la crise du logement, Gomułka annonce le 13 décembre 1970 une hausse des prix des denrées alimentaires qui peut varier de 8 à 40% selon le produit. Le lendemain, Radio Free Europe parle des manifestations, notamment à Gdansk, où les chantiers navals se mettent en grève. La permanence du parti est incendiée, et des pillages ont lieu dans la ville. L'armée intervient, et il y a officiellement 27 morts. Certainement un peu plus en réalité. Le PZPR est forcé de reconnaître les affrontements entre forces de l'ordre et ouvriers. Le gouvernement qualifie les manifestants de voyous, de criminels, précisant qu'ils n'ont rien à voir avec les ouvriers. Un comité d'entreprise se constitue sous la présidence d'Edmund Hulsh. Lech Wałęsa se distingue déjà en réclamant l'établissement de syndicats libres. Le 19 décembre 1970, le bureau politique du PZPR se réunit. Gomułka est absent. On le dit malade. Edward Gierek est propulsé premier secrétaire du parti, et donc chef d'État. Gierek promet de retrouver le dialogue avec les ouvriers et l'intelligentsia, et de respecter la démocratie interne au parti. Fait intéressant, Gierek est un ouvrier qui a travaillé et vécu à l'Euphorée, dans le Pas-de-Calais dans les années 1920-1930, avant de partir du côté de Mons, dans le Borinage, en Belgique, puis enfin de rentrer en Pologne en 1948. D'emblée, il bloque les prix pour une durée minimum de 2 ans, augmente les salaires, les allocations familiales et les retraites, pour calmer la rue. La presse pouvait à nouveau critiquer ouvertement le gouvernement, mais le mal reste profond. Les hôtels ouvriers n'ont rien de confortable. Les cantines sont de piètre qualité. Il y a un manque d'école maternelle. Le système de primes est insuffisant. La corruption monte et le marché noir est de plus en plus présent. Tous ces sujets restaient tabous. À Szczecin, un groupe d'ouvriers lui écrit une lettre ouverte. Gierek se rend sur place et les pourparlers durent 9 heures. Les discussions sont retransmises à l'extérieur. Puis il se rend à Gdansk pour faire la même chose. Gierek tire profit des crédits occidentaux négociés par Gomułka. Le 14 février 1971, éclate une grève des ouvrières du textile à Łódź pour revendiquer une augmentation de 15% du salaire. Toutes les augmentations promises sont annulées. L'URSS est dans une situation économique compliquée et ne peut plus se permettre de fournir des crédits. La Pologne, ayant besoin de crédits pour éviter une catastrophe économique, se tourne alors vers l'Occident. Le général Mocsár est démis de ses fonctions et le congrès du PZPR est avancé d'un an. Le bureau politique est renouvelé de plus de la moitié et le parti est de plus en plus technocratique. Aux législatives de 1972 et 1976, le bloc gouvernemental atteint près des 90% des suffrages. La fédération des syndicats est complètement verrouillée. Le parti au niveau local joue beaucoup du clientélisme. Les prix sont bloqués, mais Gierek est obligé de faire des voyages diplomatiques pour obtenir des crédits occidentaux. Il est reçu en grande pompe à l'Elysée par Georges Pompidou en 1972. De gros contrats avec des entreprises occidentales permettent à la Pologne de se moderniser. Mais les fruits de ces contrats ne profitent qu'aux technocrates du parti. Moscou s'inquiète et demande à Varsovie de se montrer plus loyal. La conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, autrement appelée conférence d'Helsinki, et qui se déroule en 1975, reconnaît la domination de l'URSS sur ses républiques, mais lui oblige à donner plus de place aux droits de l'homme, comme nous avons pu le voir pour la voie balte, ce qui n'est certainement pas anodin pour la suite des événements. À la fin de 1975, l'Union soviétique demande à ce que soit inscrit dans la Constitution que le parti a un rôle dirigeant dans le régime et que la Pologne a un lien d'amitié inaltérable avec l'URSS, faisant perdre de facto sa souveraineté à la Pologne, ce que les dissidents et l'Église ne manquent pas de souligner. La Diète est quasi unanime sur l'inscription de ces amendements à la Constitution, cela régénère l'opposition. À force de tenir à l'équilibre entre allégeance à l'URSS et gage envers les Occidentaux sur les droits de l'homme, pour obtenir des crédits qui maintiennent l'économie à flot, le PZPR ouvre la porte aux voix dissidentes. tout en essayant de faire croire qu'il garde le contrôle. En 1976, les intellectuels et les ouvriers convergent vers la nécessité d'un sursaut de la Pologne. Le 24 juin 1976, le Premier ministre Jaroszewicz annonce que les prix vont augmenter de 27 à 60%. Les grèves n'ont pas tardé à s'organiser. La Fédération des syndicats se fait même bousculer par cette nouvelle contestation. Comme pour le jeudi noir ou la grève de Gdansk en 1970, la réponse gouvernementale est brutale. La conférence d'Helsinki a rendu plus audibles les dissidents auprès de la communauté internationale. La brutalité de la répression a fait converger les ouvriers et les étudiants. Les intellectuels dissidents prennent la défense des ouvriers. Jacek Kuron écrit même au secrétaire général du Parti communiste italien, Enrico Berlinguer. Günther Grass et Heinrich Böll interpellent, eux, le gouvernement polonais. Le 23 septembre 1976 est créé le Comité de défense des ouvriers, le KOR, par une quinzaine d'intellectuels. Ils entament une grève de la faim le 24 mai 1977 en l'église Saint-Marcin de Varsovie. Ils défendent le pluralisme, l'autogestion et une conception démocratique du pouvoir, ainsi que les libertés civiques. Ils apportent un soutien juridique et moral aux prisonniers. Ce comité est déjà un signe décisif du rapprochement entre catholiques et laïcs. 8 membres du KOR sont arrêtés lors d'une manifestation à Cracovie en l'honneur de Stanisław Pijas, étudiant assassiné et lui-même membre du KOR. Dans un des textes écrits par le KOR, le discours fait appel à la solidarité pour sortir la Pologne de l'injustice. Solidarité, l'adjectif qui symbolise la contestation, est pour la première fois utilisé. Le 22 juillet 1977, Gierek prononce l'amnistie envers les prisonniers politiques afin de bénéficier des financements occidentaux. Le gouvernement, dans cette dynamique qui vise à desserrer l'étau pour faire bonne figure en Occident, permet alors à l'Église d'ouvrir une centaine de paroisses. Fort de ces victoires, le KOR devient le KSS-KOR, le Comité d'autodéfense sociale. Les droits de l'homme y prennent de plus en plus de place dans le discours. Dans le domaine culturel, les revues non officielles inondent l'espace public. La censure est incapable de s'occuper de toutes les publications. L'immense réalisateur Andrzej Wajda profite de son statut et de sa proximité avec le ministre de la Culture pour sortir le film « L'homme de marbre » en 1977, film qui dénonce le stalinisme et la propagande. Lors de la conférence nationale du parti en janvier 1978, Gierek annonce une hausse des salaires et une diminution du temps de travail, provoquant l'ire de ses ministres de la Culture et de l'Agriculture, qui présentent leur démission. Le 16 octobre 1978, c'est peut-être l'un des événements les plus importants que l'opposition polonaise ait connu. Pour la première fois depuis 4 siècles et demi, le Vatican a élu un pape non italien. Et ce pape, c'est Jean-Paul II, dans le civil portant le nom de Karol Wojtyła, toujours opposé au régime communiste, soutenant les ouvriers et se faisant l'avocat des droits de l'homme. L'ancien évêque de Katowice devient alors le meilleur ambassadeur à l'étranger de la contestation polonaise. La Pologne est en pleine émulation. Les tenants d'un syndicalisme autonome rédigent une charte en plusieurs points, signée par Andrzej Gwiazda et un certain Lech Wałęsa. Jean-Paul II est autorisé à venir en Pologne et il est accueilli triomphalement en juin 1978 par les Polonais. Le PZPR voit une contestation interne émerger. Fin 1979, des communistes participent à la rédaction du rapport sur l'état de la République et sur les voies menant à son amendement, alors rédigé par le groupe contestataire de réflexion, expérience et avenir, DIP, avec une postface du doyen des économistes, Edward Lipinski. Il récuse le rôle dirigeant du parti et la domination de l'URSS. Il demande le pluralisme, tout en dénonçant l'illusion de justice, le mensonge et la propagande, la répression culturelle, le manque d'équité et la laïcité comprise comme répression des croyants. Face à un régime incapable d'apporter des solutions, il suffit d'un événement pour mettre le feu aux poudres. Et c'est ce qui arrive à l'été 1980 à Gdansk. En 1980, les manifestations se durcissent à Lublin et à Varsovie. Les ouvriers du chantier naval Lénine de Gdansk se mobilisent pour rendre hommage aux ouvriers en apportant des pierres d'un monument. Des membres du syndicat libre sont licenciés aussitôt. Anna Valentinovitch est la première d'entre eux. Lech Wałęsa en fait aussi partie. La protestation devient nationale. Le 14 août 1980, les intellectuels Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki et Tadeusz Kowalik se mettent à disposition des grévistes pour formaliser leurs revendications. Gierek envoie le vice-premier ministre Mieczysław Jagielski, ce qui est un aveu de faiblesse du régime. Le 31 août, c'est une grande victoire qui est obtenue. Les syndicats libres sont reconnus. Le gouvernement desserre les taux sur les libertés et promet de nouveaux avantages sociaux tels que les samedis libres ou les 3 mois de congé maternité. La victoire se retrouve aussi dans les symboles. L'aigle blanc polonais et des portraits de Jean-Paul II sont accrochés partout au chantier naval. Cette victoire, c'est la victoire d'une organisation qui a su agréger les mécontentements. Le discours de l'Église a été en l'espace de quelques années précurseur de ce mouvement social, empreint de catholicisme mais qui touche aussi les athées par l'universalisme de ses propos. Son rapport ambigu avec le pouvoir a suscité beaucoup de méfiance. Mais si l'Église ne faisait pas cela, elle cessait d'exister purement et simplement. Les Polonais sont restés profondément catholiques. Et les grèves de Gdansk le démontrent, avec des grandes messes au sein même des chantiers navals. Solidarność a aussi vu des femmes être à la manœuvre. Mais l'histoire ne retiendra que, comme nuance Ania Szczepanska, dans son ouvrage « Une histoire visuelle de Solidarność », la figure paternelle, voire patriarcale de Wałęsa. Anna Valentinowicz restera à jamais dans l'ombre de l'électricien, alors qu'elle faisait partie des membres fondateurs de Solidarité. Même si Wałęsa a toujours impressionné avec son charisme, son côté tribun et son discours populaire auprès des ouvriers, il faut néanmoins comprendre que c'est un mouvement bien plus ample qu'un simple chef entouré de quelques lieutenants. Le comité interentreprise de grève, le MKS, était composé de 19 membres, dont 14 ouvriers, auxquels s'ajoutent 1000 délégués, envoyés par 600 entreprises. C'est bien cela qui prendra le nom de Solidarność. Le mouvement éditait une revue du même nom chaque jour. La grève a passionné les Polonais. Malgré la censure gouvernementale qui interdisait de se rendre sur les chantiers navals, la presse internationale a parfois usé de ruses pour se rendre à Gdansk, prétextant une accréditation pour un festival en Pologne. Radio Free Europe, habituellement écouté par 30% des Polonais en temps normal, atteint un pic à 48%. Andrzej Wajda récidive avec le film L'Homme de Fer, film devenu mythique puisqu'il a obtenu la Palme d'Or à Cannes en 1981. La pellicule étant parvenue à Cannes de manière clandestine, en dehors du pays. Comme pour L'Homme de Marbre, Andrzej Wajda a utilisé des images d'archives pour appuyer sa fiction avec la réalité. Lech Wałęsa y fait quelques apparitions où il parle avec le héros du film. Stanisław Kania, qui succède à Gierek, fera tout pour limiter la diffusion du film en Pologne, qui se limite donc à une diffusion à Gdansk et une à Varsovie. Rien de plus. Cette grève a eu pour conséquence au sein du PZPR de dégager un noyau dur de conservateurs prêts à tout. Kania remplace Gierek le 5 septembre 1980, suite à la victoire du syndicat sur ses revendications. Le parti compte 3 millions d'adhérents, ce qui représente à peu près 10% de la population polonaise d'alors. Sur les 64 500 élus de la Commission nationale de solidarité, 21,5% étaient adhérents au PZPR. Brejnev s'impatiente et se fait de plus en plus menaçant, allant même jusqu'à pousser pour une déclaration conjointe des États membres du pacte de Varsovie, prêts, je cite, à défendre le socialisme en Pologne. Le 10 février 1981, le général Jaruzelski, ministre de la Défense, est promu au poste de Premier ministre, et il ramène avec lui la répression. Des groupes proches du pouvoir font courir des bruits autour de Solidarność. Kania et Jaruzelski se rendent en Crimée pour rencontrer Brejnev le 15 août 1981 et le rassurer sur la loyauté du pays envers l'URSS. Le 10 septembre 1981, Solidarność tient son premier congrès avec l'espoir de voir naître des mouvements similaires à l'est du rideau de fer. Il rêve d'une république autogestionnaire, plutôt paradoxale pour des militants dépeints comme des réactionnaires pour le pouvoir en place. Mais les premières dissensions apparaissent entre ceux qui veulent attaquer frontalement le régime, ce qui est le cas d'Anna Valentinovitch par exemple, et ceux qui sont pour une transition en douceur, la ligne que défend Wałęsa. À l'automne 1981, Jaruzelski ne cesse de mettre la pression sur les grévistes, permet la montée en puissance des forces de sécurité qui quadrillent de plus en plus le pays, fait expulser les grévistes de l'école des sapeurs-pompiers de Varsovie, et demande à la Diète de voter une loi pour interdire les grèves. Des enregistrements truqués sont divulgués pour nuire aux meneurs de la grève. Wałęsa profite du relatif assouplissement pour se rendre en France entre le 14 et le 21 octobre 1981. Il y apparaît déjà comme un leader politique. Le JT d'Antenne 2 à l'époque, par l'entremise du journaliste Jean Ofredo, qui a lui-même des origines polonaises, dit que c'est bien une visite syndicale, puisque Wałęsa rencontre ses homologues. Mais ce dernier justifie aussi autant de rencontres par le fait que le syndicat représente 10 millions de Polonais, ce qui en fait la plus grosse organisation polonaise. À titre de comparaison, le PZPR de l'époque a entre 2,5 et 3 millions d'adhérents. Il tient un meeting à Pantin, rencontre chaque centrale syndicale française, s'en va rencontrer la diaspora polonaise dans le bassin minier du nord de la France, particulièrement à Lens et à Vaudricourt dans le Pas-de-Calais. Alors que Pierre Mauroy, Premier ministre français d'alors, souhaitait se rendre à Varsovie pour une visite diplomatique, ce qu'il avait promis à Wałęsa lors de son entretien à Matignon, le Quai d'Orsay l'en défend, et a raison. Le 13 décembre 1981, une junte qui prend l'appellation de Conseil militaire de salut national déclare l'état de guerre et le général Wojciech Jaruzelski devient chef d'état. Les leaders syndicaux sont arrêtés et placés en camp d'internement. Le général Jaruzelski se défend de suivre les directives de Moscou et justifie même cette prise en main par la force pour éviter l'intervention directe de l'URSS et prétend que les forces de sécurité ont découvert une cache de membres de Solidarność où étaient entreposées des armes occidentales. Boris Yeltsin, devenant le premier président de l'ère post-soviétique, déclassifie des archives et démontre que l'URSS n'avait aucune intention d'intervenir en Pologne et surtout n'avait pas les moyens économiques avec l'intervention en Afghanistan qui mobilisait déjà énormément de moyens. Solidarité est dissous. La semaine de 6 jours de travail est rétablie et le 7e jour peut être mobilisé en cas de nécessité. Le régime veut aussi appliquer la peine de mort. La loi martiale devient le quotidien des Polonais pendant quelques temps. À l'annonce de cette chape de plomb qui s'abat sur la Pologne, l'émotion s'empare de tous les médias occidentaux et les JT qui parlent de la Pologne se succèdent. Malgré l'interdiction faite aux journalistes d'y entrer, des images clandestines parviennent à l'Allemagne qui les transmet aux autres pays. Les militaires sont partout dans les rues et même les présentateurs du JT ont revêtu l'uniforme militaire. Les États-Unis menacent l'URSS d'embargo si l'URSS venait à intervenir militairement. Même si le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Claude Cheysson, affirme que la France ne fera rien, considérant que le coup d'état militaire n'est qu'une affaire intérieure à la Pologne, en coulisses, la France se mobilise pour amener de l'aide humanitaire. 7 mineurs en grève ont été abattus en Silésie, d'après les autorités. L'épiscopat polonais affirme sa réprobation envers le coup de force. L'église supplante alors Solidarność, dont les membres sont internés à Białowieża pour les hommes, et Goldap pour les femmes, soit dans la plus grande clandestinité. L'abbé Popiełuszko, dans son église Saint-Stanislas Kostka à Varsovie, continue ses prêches pour la liberté. L'église, par l'entremise du cardinal Wyszyński, puis de son successeur le cardinal Glemp, répète leur demande de dialogue entre la junte et Solidarité. Malgré son assignation à résidence, Lech Wałęsa continue de vouloir engager le dialogue avec le régime. Le 23 janvier 1982, une énorme polémique éclate en France après l'annonce de Soyuz Gaz et de Gaz de France de la signature d'un contrat de livraison de 8 milliards de mètres cubes de gaz vers la France, provoquant un tollé, même dans la majorité socialiste de l'époque, tant le contexte était brûlant. Le président Mitterrand précise quelques jours plus tard que le contrat sera dénoncé à la seconde où les Russes interviendraient en Pologne. Le 8 octobre 1982, Solidarité est dissous par un vote de la Diète. Ses membres créent la Commission temporaire de coordination, le TKK, pour continuer à militer malgré la loi martiale, publier des tracts et des brochures clandestines. Une des techniques était de prendre un paquet de tracts et de le jeter en pleine rue lorsqu'il y avait des passants, de façon à ce que les passants les prennent et les lisent. Dans les convois humanitaires se trouvent des outils qui les aident dans leurs actions, avec par exemple des duplicateurs à alcool. Des banderoles sont déployées de manière sauvage pour alerter l'opinion. Le 31 décembre 1982, donc un peu plus d'un an après l'application de la loi martiale, l'état de guerre est allégé. Les Polonais peuvent à nouveau sortir du pays. Les ouvriers sont relâchés. De quoi commencer 1983 sous les meilleurs auspices. Côté URSS, Andropov a pris la place de Brejnev. Et malgré son statut d'ancien chef du KGB, il défend une ligne plus souple à l'international, notamment avec les dissidents de l'Europe centrale. En 1982, le philosophe Michel Foucault et l'actrice Simone Signoret se sont rendus en Pologne, et ils en ont témoigné sur le plateau d'Antenne 2, pour dire que tout le pays est dans la dissidence. Du 16 au 23 juin 1983, Jean-Paul II effectue son deuxième voyage en Pologne. Il y rencontre par deux fois le général Jaruzelski. Il maintient sa position sur Solidarność, considérant que c'est le seul interlocuteur possible. D'ailleurs, cette visite permet de voir le réel impact de l'Église dans la Pologne de Jaruzelski. Tolérée par le pouvoir, elle use de son influence pour en venir en aide aux ouvriers prisonniers et gère un fonds d'aide pour les agriculteurs propriétaires de leurs terres, fonds d'aide financé par les dons étrangers et qui est finalement interdit en 1986. Par ailleurs, pour les prisonniers politiques, les aumôniers font passer certains objets, souvent cachés dans des paquets de sucre hermétique. Le 5 octobre 1983, Lech Wałęsa reçoit le prix Nobel de la paix, malgré la mise au ban de Solidarité par les autorités. Il avait été libéré sous ordre d'Andropov le 14 novembre 1982, alors qu'il était en résidence surveillée. L'année 1983, c'est aussi une année record pour le Złoty, la devise polonaise. Début 1982, 80 Złoty permettent d'obtenir 1 dollar. Fin 83, c'est 600 Złoty qu'il faut. La situation économique est telle que des projets lancés par Gierek dans les années 1970 n'ont pu être achevés, faute de crédit. Cependant, le réflexe de peur permet au régime de ne pas s'inquiéter lors des municipales de 1984. La junte semble jouer un double jeu, entre détente et menace envers l'opposition. Le 22 juillet 1984, les principaux leaders de Solidarność et du KOR sont libérés, et une quarantaine de clandestins peuvent sortir de leur cachette. Mais en octobre 1984, c'est une terrible nouvelle qui choque la Pologne tout entière. L'abbé Jerzy Popiełuszko, très suivi pour ses messes à l'église Saint-Stanislas Kostko de Varsovie, même une fois invité par Wałęsa à Gdańsk, est retrouvé défiguré et ligoté dans la Vistule, après avoir disparu plusieurs jours, alors qu'il rentrait d'une messe donnée à Szczecin. Cela exacerbe l'anticommunisme de l'église. Loin de lui faire peur, l'activisme de l'église ne cesse. La pression s'accentue sur les intellectuels. Mitchnik et Frasyniuk sont arrêtés alors qu'ils rendent visite à Wałęsa le 13 février 1985. Des experts du KOR sont arrêtés comme Jacek Kuron, qui a participé à une manifestation où les éditeurs de CDN sont arrêtés. Le gouvernement continue la répression pour dissuader les actions dissidentes. Quelque chose se casse. Les radios occidentales que sont Radio Free Europe, Radio France Internationale ou la BBC sont de plus en plus écoutées. En 1985, Mikhail Gorbatchev prend la tête de l'URSS. Il proroge le pacte de Varsovie de 20 ans, mais dans le même temps, son ton un peu plus libéral ne convient pas à Jaruzelski. À l'été 1985, Jaruzelski renforce l'OPZZ, la Fédération des syndicats, affiliée au pouvoir. Dans le même temps, il effectue une purge au sein des universités, en demandant aux professeurs de signer un serment de loyauté. L'année 1985 amorce une détente économique pour la Pologne. Les États-Unis lèvent le veto à l'encontre de la Pologne au FMI, ce qui permet sa réintégration. Les rencontres diplomatiques se multiplient avec l'Allemagne et l'Italie. Le général Jaruzelski est même reçu à l'Élysée, mais l'administration présidentielle le fait passer par les jardins de l'Élysée plutôt que par la cour centrale. En novembre 1985, les élections à la Diète n'apportent aucun changement significatif. Mais Jaruzelski laisse la place de Premier ministre à Messner pour prendre la présidence du Conseil d'État, faisant de lui le chef de l'État. Le 1er juillet 1986, Gorbatchev est présent au congrès du PZPR. Il demande à Jaruzelski de se modérer. Dans les semaines qui suivent, plus de 600 prisonniers sont libérés et amnistiés. Des prisonniers politiques profitent aussi de cette amnistie. En octobre 1986, les dissidents polonais s'unissent aux dissidents hongrois, tchécoslovaques et allemands de l'Est pour signer un appel au respect des droits de l'homme. La crise économique s'amplifie en Pologne, et la perspective de lever la censure sur les crimes soviétiques à Moscou n'est pas là pour enchanter le chef de l'État polonais. Jaruzelski se rend en Italie pour décrocher des contrats avec Fiat en janvier 1987. Mais le contexte économique ne s'améliore pas, forçant la Pologne à demander un rééchelonnement de la dette. L'URSS n'est plus d'une grande aide économique, et Gorbatchev semble pencher doucement du côté de l'opposition démocratique polonaise face au vieux stalinien qu'est Jaruzelski. Les échanges diplomatiques avec l'Occident s'intensifient. Jean-Bernard Raymond, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Chirac, se rend à Varsovie les 10 et 11 avril 1987. Les États-Unis et la Pologne échangent à nouveau des ambassadeurs. Jean-Paul II se rend pour la troisième fois en Pologne, entre le 8 et le 13 juin 1987, se rendant à Gdansk et sur la tombe de l'abbé Popiełuszko. Lors de cette visite, des banderoles Solidarność fleurissent dans la foule. Le général Jaruzelski, dans un pays qui étouffe économiquement, doit faire preuve de pragmatisme pour rassurer ses partenaires économiques, mais aussi éviter d'écorner un peu plus l'image de l'architecte du coup d'État de 1981, de plus en plus délaissé par Moscou. Le crépuscule de son règne n'est plus très loin. L'année 1988 débute avec un scénario classique depuis 1970. Les prix flambent de 50% dès le mois de janvier. Au printemps, le pays vit ses plus grosses grèves depuis 1981. Une première grève à Bydgoszcz, le 23 avril, aboutit à une augmentation de 60% pour 2000 employés des transports. Une telle victoire a eu un effet domino dans plusieurs autres villes du pays. Lors du 1er mai, les États-Unis et la France en appellent au dialogue avec les grévistes. La police anti-émeute polonaise expulse les grévistes de Nowa Huta et encercle ceux de Gdansk. Le 5 mai 1988, Lech Wałęsa appelle à la fin de la grève, lui qui est revenu à la tête de Solidarność alors qu'il semblait s'en distancier. Lors des municipales de juin, la participation atteint un timide 56% de participation, montrant que Solidarność n'arrive toujours pas à passer le pas. L'été 1988 est une étape cruciale qui mène vers la démocratie. Voyant la situation se figer, le gouvernement accepte une table ronde avec l'opposition. Fin août, le général Kiszczak, ministre de l'Intérieur, à l'initiative de cette table ronde, rencontre Lech Wałęsa. Le leader de Solidarité accepte d'entamer les discussions sur le pluralisme. L'Entente nationale polonaise des syndicats, l'OPZZ, proche du pouvoir, demande la tête du Premier ministre Messner fin septembre. Son successeur, Mieczysław Rakowski, fait fermer les chantiers navals de Gdansk. Le 2 décembre 1988, Wałęsa est opposé à Mijodowicz, président de l'OPZZ, lors d'un débat télévisé, et reste un événement puisqu'il préfigure de la démocratisation du pays. Le leader de Solidarność montre sa maîtrise des sujets. Le 10 décembre, Wałęsa se rend à Paris afin de célébrer les 40 ans de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où il rencontre Andrei Sakharov et Elena Bonner. La table ronde entre le gouvernement et Solidarité s'ouvre le 6 février 1989, sous l'impulsion de Bronisław Geremek. Le dialogue s'entame sur la création de plusieurs commissions, sur les syndicats, l'économie, la politique. Mais cette table ronde réveille les premières divisions entrevues entre Wałęsa et Walentynowicz lors de l'année 1981, c'est-à-dire d'un côté ceux qui plaident pour une transition en douceur, en faisant des concessions au PZPR, et ceux qui sont les partisans d'un basculement radical vers la démocratie et faire table rase de la République populaire de Pologne. Wałęsa et l'intelligentsia penchent plutôt du côté de la transition en douceur. En ressort de cette table ronde, l'affirmation de l'indépendance de la justice, la liberté d'association et le pluralisme de la presse. Mais ce qui divise profondément Solidarité, c'est la répartition des sièges à la Diète. 65% des sièges sont réservés au PZPR, contre 35% pour l'opposition. Wałęsa est interrogé par le journal soviétique Novoye Vremya. Jaruzelski comprend alors que les soviétiques ne le soutiennent plus. La table ronde met fin définitivement à l'état de guerre. Le président n'a plus de veto et ne peut plus dissoudre la Diète. Solidarność peut publier son journal avec l'allègement de la censure et la fin du rationnement du papier. L'accord est signé le 5 avril 1989 et le 6, Jaruzelski et Wałęsa se rencontrent. Wałęsa avait le souhait de ne pas humilier le PZPR et Jaruzelski. Les grèves sont freinées par Solidarność. Jean-Paul II a reçu Wałęsa et Geremek pour approuver leur démarche vers une transition en douceur. Le cardinal Klemp a reçu, lui, le général Jaruzelski. Les premiers craquelements apparaissent dans l'opposition. L'économiste Tadeusz Mazowiecki refuse d'apparaître dans l'équipe de Wałęsa. Le 4 juin 1989, les élections sénatoriales donnent 90 des 100 sièges à l'opposition. Une victoire permise par la mobilisation de l'Église, soutenue par des fonds américains. Le 18 juin, les législatives donnent le résultat négocié. Solidarność obtient 160 des 460 sièges de la Diète. L'abstention est de 40%. Wałęsa et Frasyniuk sentent que les comités s'autonomisent et souhaitent les dissoudre. Beaucoup d'intellectuels locaux se font un nom, et ça ne plaît pas vraiment à la tête de Solidarność. La Gazeta Wyborcza, premier journal indépendant, fondé par Miecznik, se voit retirer le label Solidarność. En souhaitant prendre le pouvoir autoritairement sur la base, Wałęsa a permis une dynamique concurrente. Bronisław Geremek, devenu leader du groupe parlementaire de l'opposition sous le nom de Club Civique du Parlement, l'OKP, montre que l'intelligentsia est capable de prendre le pouvoir. En juillet 1989, il est question de trouver l'équilibre entre ancien régime et voie démocratique. Miecznik propose que le PZPR garde la présidence et que l'opposition dispose du Premier ministre. Rakowski, encore Premier ministre à ce moment-là, décide de prendre une grave décision, suspendre le rationnement et libérer le marché, ce qui a pour conséquence de faire flamber les prix. Le Premier ministre met l'OKP au pied du mur et l'oblige à voter une indexation des salaires allant à l'encontre de leur programme. Jaruzelski, faisant fi de l'accord, nomme Kiszczak, le ministre de l'Intérieur, en tant que Premier ministre. Ce dernier échoue à former un gouvernement. Le clan Wałęsa et le clan Geremek s'affrontent. Wałęsa est alors entouré des jumeaux Kaczynski, Jarosław et Lech, ainsi que de Jacek Merkel. Le clan Geremek veut s'allier au parti paysan, le ZSL, un des rares partis autorisés depuis l'après-guerre, allié historique du PZPR, malgré son nombre famélique de membres. C'est le clan Geremek qui en sort vainqueur, et l'intelligentsia, issue du KOR, principalement, qui gagne cette première bataille interne. Tadeusz Mazowiecki est le premier Premier ministre non-communiste depuis 1948. 4 des 24 ministres demeurent des membres du PZPR. Wałęsa n'en fait même pas partie. Son influence reste importante. Il nomme dans la foulée Jarosław Kaczynski, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Tygodnik Solidarność. Dès janvier 1990, Mazowiecki attaque tambour battant les réformes. C'est une thérapie de choc qu'il lance, avec des privatisations en cascade, des réformes de l'administration d'État. Parallèlement, on lui reproche de ne pas exercer le droit d'inventaire de la Pologne communiste et de refuser de renouveler complètement la fonction publique dont les agents restent loyaux au PZPR. En plus des problèmes domestiques, la perspective de réunification allemande à court terme se précise, et avec elle le discours de récupération des terres allemandes et donc de la remise en cause de la frontière Oder-Neisse. Le président français François Mitterrand est partisan du statu quo et l'affirme devant Jaruzelski et Mazowiecki. En parallèle, la Pologne affirme ses efforts diplomatiques. Bronisław Geremek se rend à Vilnius, un mois après la déclaration unilatérale d'indépendance annoncée par Vytautas Landsbergis. Mais l'URSS souhaite garder les États baltes, car ils constituent un avantage stratégique avec un accès franc et large à la mer Baltique. Krzysztof Skubiszewski, ministre des Affaires étrangères d'alors, s'attache à créer un lien d'amitié avec l'Ukraine. La question du territoire a été réglée dès les années 1970, notamment au sein du cercle intellectuel Kultura, revue littéraire dissidente, fondée en 1947 par Jerzy Giedroyc à Paris. Tout le monde aurait pu penser que la Pologne revendiquerait Vilnius, Lviv ou encore une bonne partie du Bélarus. Ces territoires ayant historiquement appartenu à la Pologne, mais cela aurait signifié aussi de devoir négocier avec l'Allemagne. À l'été 1990, Gorbatchev et Yeltsin se déchirent, et l'URSS annonce la fin du rôle dirigeant du PCUS. Mazowiecki temporise, et ne demande pas le retrait de l'armée rouge. Malgré l'aide financière des communautés européennes, ancêtre de l'Union européenne, pour stabiliser la monnaie polonaise, la Pologne est déçue par la prudence européenne quant à la future intégration de la Pologne. Craignant la renaissance du nationalisme et une situation économique catastrophique qui dure depuis presque deux décennies. Le 18 septembre 1990, le général Jaruzelski démissionne de la présidence de la République, donnant une nouvelle opportunité d'ouvrir la Pologne à la démocratie. Alors que tout le monde attendait le duel fratricide entre Tadeusz Mazowiecki et Lech Wałęsa, un émigré polonais du Canada, très libertarien, du nom de Stanisław Timiński, crée la surprise. Le Premier ministre est éliminé dès le premier tour au profit de ce dernier, laissant un boulevard à Wałęsa pour le deuxième tour, qu'il remporte avec 75,25% des suffrages. L'abstention reste inquiétante avec 46,6%. L'investiture de Wałęsa a une saveur spéciale. Le gouvernement en exil de Londres, avec cette élection, n'a plus lieu d'être. C'est pourquoi Richard Kaczorowski, dernier président de la Seconde République de Pologne en exil, vient remettre les attributs de la présidence polonaise. La dissolution du gouvernement en exil est donc prononcée fin décembre 1990. Début décembre 1990, Tadeusz Mazowiecki rassemble les intellectuels de Solidarność sous la bannière de l'Union démocratique, l'UD, dont Geremek sera une des plus grandes figures. Wałęsa nomme Jan Krzysztof Bielecki, leader du Congrès libéral-démocrate, comme Premier ministre, pour mener à bien la privatisation des entreprises publiques et la libéralisation de l'économie afin d'attirer des investisseurs occidentaux. Au début de l'année 1990, les derniers soubresauts de l'URSS semblent montrer l'impuissance de celle-ci. L'intervention sanglante de l'armée rouge à Vilnius a choqué l'opinion occidentale. Le pacte de Varsovie est officiellement abrogé le 25 février 1991. Le 27 février ont lieu les premières élections législatives totalement libres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles donnent l'image d'une Pologne profondément divisée. Le parti le mieux placé est l'UD de Tadeusz Mazowiecki, suivi de près par la gauche démocratique qui n'est autre que le PZPR, converti à la social-démocratie, avec 11,59%. Solidarność n'arrive que 5e avec 8,2%, devancé par le Parti Paysan et la droite catholique. L'histoire de la Pologne d'après-guerre, c'est avant tout une histoire de luttes successives, avec le Jeudi noir de Poznan et les grèves de 1970 et 1980 à Gdansk. Une Pologne qui s'est sacrifiée pour une économie collectiviste, mais qui en a rarement vu les fruits, cause même des soulèvements contre le régime, souvent durement réprimés. Le tournant des années 1970 a montré l'incapacité de maintenir une union aussi large que l'URSS. La conférence sur la sécurité et la coordination en Europe a, comme pour les États baltes, ouvert la porte à une voie plus libre, une caisse de résonance internationale pour les dissidents. Le manque de vision de Moscou sur l'économie et son engagement en Afghanistan a obligé la République populaire de Pologne de se gérer d'elle-même. Solidarność a su tirer profit des objectifs contraires du pouvoir, qui devait être loyal à Moscou, tout en donnant des gages aux pays occidentaux pour obtenir des crédits. Des crédits qui ne suffisent pas à donner un niveau de vie suffisant aux Polonais, dont la contestation s'est levée à l'été 1980. Le coup de force du général Jaruzelski, le 13 décembre 1981, n'a fait que retarder la dynamique vers la démocratie. Incapable de relever l'économie, et voyant que Gorbatchev prenait de plus en plus ses distances avec lui, le dialogue avec Solidarność reprend en mai 1988. Loin d'être le mythe romantique que l'on entend encore assez souvent autour de Solidarité, l'histoire du syndicat est aussi l'histoire de la convergence des ouvriers, des catholiques et des étudiants assoiffés de liberté. Des intérêts divergents qui se font jour à nouveau lors du retour de la démocratie en Pologne. L'Église devient un acteur incontournable de cette nouvelle époque puisque c'est l'institution qui a su démontrer une existence constante durant la période soviétique et qui a suppléé Solidarność quand celui-ci a été dissous par la junte. Si Solidarność a milité pour les libertés et le niveau de vie des Polonais pendant les années 80, l'aube des années 90 semble montrer tous les intérêts divergents intrinsèques à Solidarność, entre ceux qui voulaient une transition en douceur avec l'ancien régime et ceux qui voulaient une rupture totale et ceux favorables à une chasse aux sorcières, entre les tenants d'une cure libérale et ceux d'un conservatisme plus social, proche des démocrates chrétiens. Les législatives de 1991 sont l'aboutissement d'une longue lutte, mais comme le dit si bien Svetlana Alexievitch, quand vous avez connu si longtemps un modèle, difficile de se projeter dans un autre, et ce vide idéologique a donné lieu à une vie politique nucléarisée, avec pas moins de 42 partis représentés à la Diète, avec des partis originaux comme le Parti polonais des Amis de la bière. J'aurai l'occasion de vous parler de la vie politique polonaise post-soviétique dans un prochain épisode, en vous exposant les dynamiques contemporaines, démontrant que l'héritage de Solidarność a complètement polarisé la vie politique polonaise. Petite info supplémentaire. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez le soutenir en ligne via Utip, site de financement de créateurs par lequel vous pouvez financer par des dons ponctuels ou récurrents. Cela me permettra de financer l'achat de livres, de documents scientifiques ou de matériel audio pour enrichir le podcast dans son contenu. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à activer les notifications pour être alerté des futures publications. À très bientôt sur l'Europe d'hier et d'aujourd'hui.